Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, un répondeur, c'est maintenant, sur Inter.
Raymond Aubrac est mort. Nous l'avions reçu l'année dernière au Repère de Marseille, en solidarité avec un ami qui faisait une grève de la faim. La rencontre avec Raymond Aubrac a bouleversé nos vies. Il nous a fait comprendre que, comme lui, nous devrions lutter notre vie entière. Nous avons été impressionnés par son écoute, par sa clairvoyance de notre époque, son implication dans le présent. Il a été un artisan infatigable de la transmission. Il nous lègue aujourd'hui le programme du Conseil national de la Résistance. Il nous appartient maintenant de défendre ce programme qui est attaqué de toutes parts. Tu m'avais confié que le temps était long sans Lucie, depuis hier. Vous vous êtes retrouvés là-haut. Adieu Raymond.
Apprenant à l'instant sur France Inter la mort de Monsieur Raymond Aubrac, j'ai tout de suite imaginé les cérémonies que notre petit timonier pourrait essayer de mettre à profit pour sa campagne. Je supplie ici la famille et les nombreux amis du grand monsieur qui vient de nous quitter de ne pas permettre au candidat président de récupérer sa mémoire comme il le fit de tant d'autres. Souvenez-vous la lettre de Guy Mocquet, l'Aiglière, etc., etc. Faites comme les Martiniquais qui ont su le tenir à distance lors de la mort d'Aimé Césaire. Vous le devez à M. Aubrac et à tous ceux qui, comme moi, partagent sincèrement votre tristesse.
Le 14 mars 2007, vous rendiez hommage à Lucie Aubrac, morte à 94 ans, résistante et communiste. Et vous aviez cité un de sa maxime, le verbe résister doit toujours être conjugué au présent. Son mari est mort. Je crois qu'il a bien résisté 4 ans ou 5 ans après la mort de sa femme. Bon, mais maintenant, il ne faut pas oublier que le verbe résister doit toujours être conjugué au présent. Salut.
Raymond Aubrac est mort et j'ai des boules. Voilà, c'est tout. Allez, bise à tous les AMG.
Comme beaucoup de gens, là, je viens d'entendre aux informations que Raymond Aubrac est mort. Et ben, je dois vous dire que j'ai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille. J'ai l'impression de perdre une partie de ma conscience. Et j'espère que nos consciences vont pas s'effriter avec sa disparition, puisque c'était l'un des derniers. Hein, il n'y en a plus beaucoup. C'est quelqu'un que j'avais eu l'occasion de voir, d'écouter le rassemblement des billères, un des contre-rassemblements de notre cher président. Et ses mots nous illuminaient, ses propos nous entouraient d'un aura de conscience et de révolte, comme le disait M. Hessel. Et c'est vrai que quand on les voyait tous les deux, j'ai jamais béatifié qui que ce soit, j'ai jamais eu adulé quoi que ce soit, mais c'est vrai que ces personnages-là ne vous laissaient pas indifférents et vous marquaient à jamais. Voilà, ben, il ne faudra pas l'oublier. Il faudra toujours se souvenir de son message et garder cette image d'un jeune vieillard plein d'allant, plein de confiance dans l'avenir et dans la jeunesse. Voilà. Allez, à plus.
Beaucoup de messages, évidemment, en hommage à Raymond Aubrac, aujourd'hui, dans le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et c'est une émotion, évidemment. Et c'est un immense modèle que représente, que constitue Raymond Aubrac. Tout le monde le dit et le redit. Ça a peut-être un sens un peu plus particulier pour nous, là-bas, si j'y suis, qui l'avions rencontré. Vous pouvez retrouver une émission, d'ailleurs, qu'on avait consacrée à Raymond Aubrac et à son épouse en 2007 sur le site labas.org. Et puis je me souviens comment les Aubrac m'avaient soutenu en 2002 lors de poursuites dont j'avais fait l'objet, avec quelle gentillesse et empressement ils m'avaient soutenu. Donc je suis pas prêt de les oublier. Mais évidemment, on voit que la résistance et le goût du progrès, ça fait quand même des très belles vies, de très longues et très belles vies. Intéressons-nous à Aubrac, à tout ce qui va sortir comme texte, livre, hommage, etc. Il y a sans doute beaucoup de grains à moudre pour tous dans tout ça aujourd'hui et sans doute pour quelque temps encore. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au jour d'après, au cas où... on va faire de la politique, vous ne le répétez pas. Hein. Surtout, vous ne le répétez pas. S'il est élu, M. Hollande, ce sera un beau soir, une belle soirée. Mais le lendemain, il se pourrait bien que les financiers l'attendent au coin du bois, les financiers, les marchés, comme vous voudrez. Car il y a un certain pacte budgétaire qui est approuvé par pas mal de pays européens. Alors M. Hollande dit que ce pacte budgétaire, il en demandera la renégociation. Mais le peut-il ? Et certains en doutent. On doute de ses capacités, de sa possibilité, de ses possibilités à renégocier ce pacte budgétaire extrêmement rigoureux pour les petits Français et Français que nous sommes. Certains donc en doutent et on va les entendre, c'est curieux, dans cette émission que nous allons vivre ensemble jusqu'à 16h. Avec, en début d'heure, un... On dit toujours le marché, c'est qui, quelle tête ça ? Eh bien, vous allez voir, on a la tête du marché, un prédicateur de marché qui va vous parler tout droit dans les yeux pour commencer. Et les commentaires de ceux qui doutent des lendemains, qui risquent de ne pas chanter aussi fort qu'on le pense, ou chanter un petit peu faux, ou ne pas chanter du tout. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Alors là, il est même pas 15h20. En exergue, M. Mermet avait dit qu'il ne ferait pas de politique. Il est même pas 15h20 et déjà on entend Serge Halimi dire des espèces de méchanceté sur des pays bien gouvernés comme l'Italie, hein, à dire que l'Italie va connaître la récession, alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, parce que moi j'ai regardé le journal de France 2 dans la semaine dernière, où il titrait sur le miracle italien. Alors, franchement, M. Halimi, si c'est pour être de mauvaise foi comme ça, et vous, M. Mermet, si c'est pour diffuser des gens d'aussi mauvaise foi, c'est pas la peine. C'est vraiment de la toute petite politique que vous êtes en train de faire, alors que vous étiez engagé à ne pas en faire. Voilà. C'est Alain du Jura et... Allez, continuez, quoi. À la fin, c'est nous qu'on va gagner, il paraît.
Ce mercredi à 19h, comme tous les deuxièmes mercredis du mois, les AMG de Nice et des environs se réuniront au repère local de l'Abbatie Vissuie, au 3 de la rue Benoît Bounicot, à la Falabrac Fabrique, dans le Vieux-Nice. Que tout le monde se le dise.
Oui, bonjour, c'est Dominique de Mérignac, à côté de Bordeaux. Je viens d'apprendre avec stupeur que Françoise Hardy partirait de France si François Hollande était élu. Eh bien, je voulais lui dire que premièrement, il s'en fout, et que deuxièmement, il me semble que beaucoup d'artistes ont eu le courage de rester, même après l'élection de Sarkozy. Mon Dieu, a-t-elle peur que la gauche lui prenne tout ce qu'elle a ? Quelle horreur !
Bonjour à l'équipe de Là-bas si j'y suis. La section de la LDH de Martel au Quercy reçoit samedi 14 avril Serge Halimi, directeur du monde diplomatique. Le thème de cette rencontre portera sur le grand désordre libéral. Pas de pitié pour les gueux. Nous vous attendons, nombreuses et nombreux, à cette rencontre au palais de la Raymondie à 16h à Martel dans le Lot. Nous espérons la présence des candidates et des candidats à la députation pour échanger avec leurs électrices et électeurs. Merci à tous.
Oui, bonjour, c'est Guy Dumuy dans le Var. Il est 3h du matin, il n'y en a pas un à la mairie à la Farlède pour arrêter les arroseurs publics qui arrosent les pelouses alors qu'il a plu toute la nuit. Allez, merci, ciao.
The company blames
the Yahoo, non titre,
Carrefour Gazebo,
le CDI tel que nous l'avons connu, nous ne le connaîtrons plus normalement. Ça, c'est clair.
Une des grandes priorités du gouvernement italien, la réforme du marché du travail.
Nous allons aboutir à un démontage extrêmement rapide et de notre droit social et de notre droit du travail.
Notamment la Bourse de Paris, l'action a perdu au total.
La Grèce prolonge sa cure d'austérité. Hier, le Parlement a adopté un budget d'une extrême rigueur pour 2012.
Les valeurs de la distribution.
C'est le package typique de réforme, c'est ce qu'avaient fait en leur temps Reagan et Thatcher. Quoi la France pourrait-elle s'en dispenser?
Ce choix de l'Europe est un choix de la dictature.
Alors, beaucoup de Français penseraient que c'est la victoire du modèle libéral. Oui, en quelque sorte. C'est la victoire du modèle libéral. Oui, en quelque sorte.
Salut, c'est Daniel Mermet. C'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin. La finance au coin du bois.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc là, Daniel, on se trouve à la Défense. Au 9 quai Paul Doumer, au siège du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à la Défense. Au milieu des grands immeubles de Total, Suez, etc., il y a donc le Corporate and Investment Bank du Crédit Agricole. Et pourquoi on se rend ici ce lundi matin? Ben, c'est parce qu'on a relevé sur Internet un document qui nous paraît vraiment le plan de bataille des financiers. C'est un document qui est assez bref, 9 pages, rédigé en anglais, mais qui nous dit ben voilà, que feront les marchés si jamais François Hollande est élu? Comment ils pèseront sur la politique et ainsi de suite. Et donc c'est un senior advisor de Chevreux. Chevreux, c'est une filiale du Crédit Agricole vachement importante, même si elle n'est pas très connue, qui conseille 1200 investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des fonds de pension essentiellement anglo-saxons, avec des bureaux un peu partout dans le monde, à Athènes, aux Pays-Bas, au Danemark, au Japon, aux États-Unis et ainsi de suite, à Boston. Et ce senior advisor a donc rédigé un rapport où il dit que non seulement François Hollande ne tiendra pas ses promesses, mais en plus c'est lui qui va flexibiliser le marché du travail. Donc on entre dans ce lieu du capital, on entre au siège du Corporate and Investment Bank, dans le hall. Bonjour madame, donc je suis François Ruffin, je travaille pour France Inter, et je dois demander madame Negrini. Voilà.
Le company blames Yahoo, non titre,
Carrefour Gazebo,
le mariage de Mercedes Com et de CGTL est fini.
S'il est élu, monsieur Hollande, le soir de son succès, n'ira sans doute pas au Phuket, mais le Phuket se viendra à lui le soir même ou le lendemain matin. Et ce sera peut-être pas pour rigoler, mais pour lui donner sa feuille de route. Le titre, le pacte budgétaire. Le pacte budgétaire, c'est-à-dire la rigueur, la flexibilité du marché, le refinancement des retraites, le dégraissage dans la fonction publique, la modération des salaires, etc., etc. Tout ça au nom de la crise et de la dette publique, ce que nous avons vu, ce que nous voyons en Grèce, ce que nous avons vu et que nous voyons en Espagne, dans bien d'autres pays européens, et qui risque de nous arriver à en croire celui que nous allons rencontrer et qui n'est que le porte-voix de ce qu'on va, par commodité, appeler les marchés. Mais enfin, porte-voix, c'est déjà pas mal, parce que les marchés, eh bien, on l'avait déjà dit, et on va l'entendre et le voir, ont bel et bien un visage. Alors, ce projet de pacte budgétaire, enfin ce projet, projet qui commence à plus être un projet de pacte budgétaire. François Hollande, au cours de sa campagne, a dit qu'il exigerait la renégociation de façon à introduire des dispositifs qui permettront, oui, bien sûr, de faire de la rigueur, mais en plus, de faire en même temps de la croissance. Et ça... pas grand monde croit à ça, pas grand monde pour croire à cette possibilité. Il y a des sceptiques, il y a des gens qui doutent. Ils vont vous parler d'ici à 16h dans Là-bas si j'y suis. Il se pourrait bien que, effectivement, ces lendemains ne soient pas aussi gais et aussi enchantés, ni aussi enchanteurs qu'on nous le promet et que, bien sûr, nous l'espérons.
Une bulle financière explose dans les airs. Stress et panique saisissent la presse et ça clique. Les écrans sont noirs et veulent plus rien savoir. Crise, 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 c'est la crise.
Nicolas Doisy, on se trouve au siège de la Corporate and Investment Bank du Crédit Agricole. Mm-hmm. Vous êtes Chief Economist chez Chevreux. Chevreux étant le premier broker en actions européennes sur le marché.
Tout à fait. Premier broker indépendant sur actions européennes. Donc Chevreux possède 14 bureaux à travers le monde, y compris New York, San Francisco, Tokyo, Zurich.
Donc Chevreux conseille 1200 banques, fonds de pension et ainsi de suite.
Tout à fait. Et Chevreux, son rôle en fait, c'est de fournir un service à ces 1200 investisseurs institutionnels. Un service qui se décompose en recherche, vente et exécution. Donc recherche, c'est la génération d'idées qui permettent à nos clients de générer de la surperformance.
Pourquoi une société de courtage comme Chevreux a un département recherche et pourquoi cette recherche s'intéresse à la politique française ?
Alors pourquoi la politique ? Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la politique économique, eh bien dans politique économique, il y a politique, il n'y a pas qu'économique. Depuis finalement le début de cette crise, et je le date de la crise de Lehman en 2008, le cycle économique, le cycle financier est beaucoup dirigé, conduit par la politique. Et du coup, tout ce qui est politique prend énormément d'importance et détermine beaucoup des événements sur lesquels les investisseurs gardent leurs yeux.
Voilà, vous avez compris, vous voyez le cadre dans lequel nous sommes. Il sera bien difficile de démêler dans les propos de Nicolas Doisy ce qui relève du du constat lucide et ce qui relève de ce qu'il souhaite. Le néolibéralisme, la finance, le marché, etc., c'est pas des choses qui sont hors de la pensée. C'est pas, comme on l'a fait croire si souvent, quelque chose qui relève de la météo, des intempéries, ou que sais-je, quelque chose qui serait absolument naturel. C'est le fruit d'idées et de conceptions du monde que certains combattent, que certains de plus en plus nombreux subissent et que d'autres présentent comme des évidences.
Vous avez publié un papier, là, dont le titre est, en anglais, « François Hollande and France Labour Market Rigidity, the market will work both ». François Hollande et la rigidité du marché du travail, le marché va chahuter, bousculer les deux.
Tout à fait. Quand on regarde un petit peu la façon dont se déroulent les élections et dont les marchés perçoivent le problème européen, on se rend compte qu'il y a des chances non négligeables que François Hollande se trouve pris entre deux forces contradictoires. Les marchés qui attendront de lui un certain nombre de réformes dites structurelles, donc c'est des réformes qui vont porter sur l'assainissement des comptes publics évidemment, mais aussi des réformes qui sont appelées à rendre l'économie française plus performante. Or, c'est le type de réforme dont très vraisemblablement une partie de l'électorat de François Hollande se méfie. Et si vous regardez bien, finalement, François Hollande s'est pour l'instant abstenu de clarifier de façon nette sa position sur ce sujet. Et pour cause, il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demande souvent, mais où est le programme? Je leur dis, il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie, et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro.
Vous vous dites, non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée.
Vous me dites, c'est lui qui va devoir le faire. C'est lui qui va devoir le faire dans la mesure où c'est lui qui sera élu. En d'autres termes, de toute façon, qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire. Parce que tout simplement, la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie, l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui. La Grèce aussi. Au nom de quoi la France pourrait-elle s'en dispenser?
Quel type de réforme?
Quelle réforme? Alors, j'y viens. C'est le package typique de réformes qui a été imposé à la Grèce, qui est demandé aussi à l'Italie, qui est demandé aussi à l'Espagne. Et c'est, si vous voulez, si on fait référence aux années 80, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'offre. C'est ce qu'avaient fait en leur temps Reagan et Thatcher. L'Europe continentale a estimé qu'elle pouvait ne pas adopter ce modèle. C'est un choix de société, c'est un choix politique. Il se trouve qu'aujourd'hui, le modèle traditionnel français, le modèle du CDI que vous mentionniez, est en train d'arriver en bout de course. Il est à bout de souffle, quelque part. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement le genre de réforme qui a été faite en Espagne récemment. Et l'idée, c'est de permettre aux entreprises d'avoir une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs ressources humaines, de façon à ajuster au mieux leur personnel, leur force de travail, de façon à être les plus performantes. En d'autres termes, ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment, et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs. C'est là que ça va coincer, c'est là que ce sera problématique, parce que je ne suis pas certain qu'on pourra maintenir le modèle français tel qu'il est. C'est ça le point important, c'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il faudra qu'ils fassent un choix.
Une des grandes priorités du gouvernement italien, la réforme du marché du travail. Le Premier ministre Mario Monti reçoit les partenaires sociaux au Palais Chigi. Avec cette réforme, il veut rendre le marché du travail plus flexible en facilitant les licenciements économiques.
La Grèce prolonge sa cure d'austérité. Hier, le Parlement a adopté un budget d'une extrême rigueur pour 2012. Le gouvernement prévoit d'augmenter les impôts et de réduire les salaires dans le public. Des mesures exigées par les créanciers de la Grèce.
L'Espagne adopte le budget le plus austère de sa démocratie. Il vise à générer 27 milliards d'euros d'économies. Au pouvoir depuis 100 jours, le gouvernement conservateur se donne 12 mois pour atteindre l'objectif qui lui a été fixé par l'Eurogroupe.
Conseil des ministres a adopté vendredi à Madrid les grandes lignes de sa réforme du travail. La réforme a été adoptée par décret-loi, c'est-à-dire qu'elle ne passera pas par le Parlement et entrera en vigueur dès sa publication.
Jean-Pierre Garnier, vous êtes sociologue ?
Je l'étais, oui. Maintenant, je suis à la retraite, mais pas en retraite.
Vous êtes aussi l'auteur, dans les années 80, d'un livre qui s'appelait « La deuxième droite ».
Oui, avec Louis Jadovert, oui.
Je vous avais envoyé un texte d'un dépendant en Europe qui s'appelle Chevreux, qui conseille 1200 investisseurs institutionnels. Pour moi, c'est le plan de bataille des financiers pour la préélection en cas de victoire de la gauche modérée.
Apparemment, ils ne sont pas inquiets du futur DIA, étant donné que pour eux, ils savent que, selon une tradition déjà bien établie, la soi-disant gauche institutionnelle va faire le sale boulot, comme aurait dit Fabius, ou comme redira peut-être Fabius, que la droite ne pouvait ou n'osait faire. Moi, ce que j'ai trouvé plus remarquable, c'est qu'il dit que, de toute façon, ce qu'il faudra qu'il fasse, c'est essayer de vendre à son peuple une politique qui ira à l'encontre des intérêts populaires. Donc, il pense aussi à comment tromper le peuple. C'est presque un scénario qui est écrit pour la gauche par la droite, si on peut dire. La droite lucide, cynique, intelligente, stratégique.
Très clairement, il dit « to trick the people », tromper, rouler le peuple.
Oui, rouler dans la farine. Il le dit carrément, oui. Et alors là, il s'adresse en fait, faut quand même ce document que vous m'avez montré est un document qui s'adresse à ses pairs, en quelque sorte, ou aux gens du marché. C'est pas fait pour être diffusé par l'humanité ou par des gens, même le Nouvel Observateur. Hein, même les gens qui sont sociolibéraux se garderaient, pour l'instant, de diffuser un tel document, je crois. Je crois qu'une classe dirigeante... pour qu'elle puisse continuer à diriger sans trop d'à-coups, il faut qu'elle fasse preuve d'un minimum d'intelligence. D'intelligence sociale, j'entends. Hein, de l'état des rapports de force dans une société. Sinon, on a affaire à des classes dirigeantes qui recourent à des moyens beaucoup plus grossiers pour se maintenir en place. On revient toujours à ce que disait Gramsci. Où c'est la coercition, où c'est le consentement. En général, une vraie classe dirigeante, j'allais dire, pour pouvoir perdurer, elle doit fonctionner au consentement plutôt qu'à la coercition. Ce qui n'empêche pas d'utiliser l'appareil répressif si jamais il y a des soulèvements populaires qui prennent un peu trop d'ampleur.
Quand vous lisez ça, vous dites il a raison, c'est bien comme ça que risque de se dérouler l'histoire.
Sur la base de l'expérience historique, il n'y a pas de meilleur, je dirais, moyen pour une classe dirigeante qui s'apprête à renforcer tous les mécanismes de l'exploitation, la flexibilisation du marché du travail et le démantèlement de l'État social en font partie, que de faire faire le sale boulot, le travail, par des pseudo-partis de gauche.
Ça, c'est le plan de bataille des marchés.
Voilà, oui.
Quel serait votre plan de bataille ?
Je ne suis pas stratège en chambre, mais de toute façon, c'est une chose. Les plans de bataille à l'avance ne donnent pas forcément des résultats probants. Je veux dire par là que toutes les fois où la bourgeoisie s'est trouvée sur la défensive, c'était dans des conjonctures socio-historiques où elle a été prise au dépourvu. Pour prendre un exemple, 1848, ce n'était pas prévu. La Commune de Paris, ça n'était pas prévu. Le Front populaire, vous le savez comme moi, la grève générale qui s'est manifestée, les revendications, elles n'étaient pas inscrites dans le programme du Front populaire. Il y a eu une telle trouille que les lois sociales ont été votées, moins 2 voix, je crois, y compris par les gens de droite. Il y avait une panique. On pourrait dire même que les avancées du programme de la résistance n'ont pu se concrétiser dans des réformes positif pour les classes populaires, parce qu'il y avait le Parti communiste qui était puissant, l'armée rouge qui campait pas très loin, au milieu de l'Europe. Le Parti communiste, quand même, avait pas mal de partisans armés, il ne faut pas l'oublier, les libérations. Ils avaient la trouille. Donc, je veux dire, mais tout ça n'était pas prévu. Il n'y a jamais eu un plan. Les soviets, hein, 1905, il y a des conseils ouvriers qui surgissent. C'est une forme qui n'avait jamais existé, occupation, autogestion, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lénine et Trotsky, lui-même, ont été les premières surprises. C'était, je veux dire par là que je ne pense pas qu'on puisse à l'avance programmer quelles seraient les formes organisées d'un soulèvement populaire qui mettrait en cause le pouvoir des classes dirigeantes. En revanche, ils ont quand même la trouille. On est peut-être dans une période, hein, c'est ce que je souhaite moi, où il va y avoir une forme de soulèvement populaire quelque part qui va être contagieuse. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de modèle alternatif de société. Vous savez, les alternatives se créent dans la lutte. Il se peut qu'il y ait une dynamique incontrôlable, y compris de la part des élites du front de gauche.
Même les grèves générales commencent à lasser les Grecs, excédés par l'état de leur pays et appuyés par les propos de leur ministre de l'économie, qui évoque une situation désespérée pour la Grèce.
Le peuple avant le profit. Le message est brandi sous les fenêtres de Brian Cowen, le premier ministre irlandais. Quelques dizaines de personnes venues manifester leur colère après l'annonce du plan de rigueur.
Comme ça, pas un pas en arrière, pour la réforme, grève générale.
Oh oui, mais ça c'est en Grèce, c'est en Espagne, c'est ailleurs, c'est pas chez nous. Oui, mais que se passera-t-il le lendemain de l'élection de M. Hollande? Si, toutefois, évidemment, c'est M. Hollande. La finance, c'est au coin du bois. La finance l'attend. C'est le point de vue de Nicolas Doisy, économiste et stratégiste, chief économiste à la Corporate Investment Bank. Écoutons-le.
Alors, dans votre papier, vous écrivez, je traduis, hein, oui. Mais vous me dites si c'est mal traduit. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Donc la seule question est de savoir si François Hollande va ne serait-ce qu'essayer de respecter ses promesses ou s'il va volontairement revenir dessus aussitôt élu.
C'est exactement ça. Et effectivement, je vous remercie de citer ce passage. C'est probablement un des plus importants de la note. En passant, la traduction est très bonne. C'est exactement ça. On est au pied du mur. Alors, beaucoup de Français penseraient que c'est la victoire du modèle libéral. Oui, en quelque sorte. Mais ensuite, effectivement, la France sera au pied du mur, tout autant que l'Espagne l'est, tout autant que l'Italie, tout autant que la Grèce, tout autant que tous les pays qui n'ont pas fait ce genre de réforme.
Ce que vous dites dans votre note, c'est qu'il y aura quelqu'un de déçu.
Oui, le marché ou les électeurs seront déçus. Quelque part, c'est un peu une répétition de 81-83. Pour ceux qui n'étaient pas nés à cette époque, on va faire un petit point d'histoire. En 81, alors qu'on venait d'avoir le choc pétrolier de 73-74 et puis de 79, que la France avait besoin précisément d'être plus flexible, François Mitterrand est élu sur un programme qu'on va dire vraiment de gauche, très de gauche, très socialiste keynésien, relance par la consommation, etc., etc. Et tout ça pour qu'au bout de 2 ans, à peine, 3 dévaluations du franc, en mars 83, après avoir perdu les élections municipales, François Mitterrand soit obligé de faire un complet demi-tour et d'adopter les politiques de Madame Thatcher, de Monsieur Reagan à l'époque. Évidemment, pas aussi ambitieuse, mais tout de même. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Le choix avait été très simple pour François Mitterrand. La question, c'était rester dans la construction européenne, dans le projet européen, ou en sortir. Et après avoir hésité et apparemment failli quitter le SME et donc le projet européen, la France a décidé d'y rester. Et donc la traduction de ça, ça a été ce qu'on a appelé la politique d'austérité, qui a duré des années et des années et des années, de désinflation compétitive. Et bien là, la situation est un peu la même. C'est, si la France veut rester dans la zone euro, il faudra très vraisemblablement qu'elle se plie à un certain nombre de programmes de réformes qui sont maintenant imposés. Ou sinon, l'idée sera que la France devra quitter la zone euro. Alors, autant en 83, il était peut-être moins compliqué de quitter le projet de construction européenne, autant aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. On l'a vu, si l'idée même de la sortie d'un petit pays comme la Grèce a causé une crise comme nous l'avons connue à l'automne dernier, je vous laisse imaginer pour la France.
Quand je lis en première page que sur telle ou telle plage il y a eu un naufrage et que des gens sont morts noyés, c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas d'engin de sauvetage. Je suis triste un court instant, mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société bon présage qui fait des bouées de sauvetage. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content. Quand je vois à la télé que dans un coin paumé une guerre est déclarée et que des armes sophistiquées, ben voyons, nous font des morts par milliers à Londres, je suis triste un petit moment, mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société, c'est très bon, spécialiste des canons. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content.
Serge Halimi,
on vient vous voir comme auteur de « Quand la gauche essayait ». Je suis tombé sur une note là du premier broker en action européenne indépendant qui s'appelle Chevreux, filiale du Crédit Agricole. C'est une note qui m'est apparue à la fois lucide et cynique et finalement assez radicale puisqu'on nous dit « Entre le peuple et les marchés, François Hollande va devoir choisir et il choisira les marchés ». Vous êtes d'accord, Serge Halimi, vous auriez pu signer cette note?
J'ai pensé que la personne qui l'avait rédigée sous-estimait peut-être le pouvoir du peuple, mais ne surestimait probablement pas la puissance des marchés. Si je m'étais placé du point de vue des auteurs, je me serais dit que, compte tenu des contraintes que la France s'est imposées depuis une trentaine d'années, de l'imbrication de ces politiques économiques dans le mouvement mondial des marchés et compte tenu aussi de la faible disposition que j'imagine chez François Hollande de rompre avec toutes ces contraintes qu'il a après tout endossées les unes après les autres, indiquant bien que cette Europe monétaire, cette Europe économique était pour lui une perspective souhaitable en attendant une Europe sociale mais qui naturellement n'arrive jamais. Dans la mesure où je me dis, voilà, les contraintes sont très lourdes et le responsable qui tiendra la barre a montré qu'il était prêt à accepter la plupart d'entre elles, vraisemblablement, il n'aura d'autre choix que de suivre une politique économique qui ne différera pas trop de celle de son prédécesseur.
Là, l'auteur de la note, Nicolas Doisy, nous dit François Hollande doit choisir s'il reste à l'intérieur de l'eurozone, il va devoir adopter l'austérité fiscale et en finir avec le contrat à durée indéterminée, libéraliser le marché du travail.
Oui, il est évident quand on lit la presse d'affaires qui est assez représentative de ce que pensent les milieux financiers, les agences de notation, les fonds de pension, que la France est encore en retard. Vous savez, la France a toujours été en retard sur l'évolution du monde depuis qu'elle n'a pas été en avance sur ce que recommandaient Thatcher, Reagan et les autres. Donc elle est en retard lorsqu'il s'agit de son droit du travail. Il me semble que cette note oublie un élément qui est important, outre la capacité de résistance populaire qui, dans l'histoire, a déjoué bien des scénarios de ce type. L'autre élément, c'est que même si le prochain président, quel qu'il soit, voulait se plier à la politique que recommande la Banque centrale, que recommande la Commission européenne, que recommande Angela Merkel, que d'une certaine manière recommande Nicolas Sarkozy, ces politiques vont dans le mur. Et tout le monde sait qu'elles vont dans le mur. Parce qu'après tout, le nombre de pays qui ont fait des plans d'austérité sans que leur situation s'améliore commence à devenir assez impressionnant entre la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ça n'est pas faute de politique d'austérité ces deux dernières années, et pourtant la situation de presque chacun de ces pays se dégrade. Cette espèce de camisole de force, de cercle de fer dans lequel on prétend comprimer les économies européennes pour qu'elles soient toutes sur le modèle allemand, sont des paramètres qui sont intenables. Ça veut dire qu'un gouvernement de gauche qui aurait la disposition de mener une politique de gauche et qui pourrait s'appuyer sur une mobilisation populaire de gens qui, en quelque sorte, l'empêcheraient de reculer aussitôt, aurait peut-être la possibilité de chercher des appuis en Europe auprès de partenaires qui, bien que distincts idéologiquement, constatent que les contraintes qui ont été mises en place par la BCE, par la Commission européenne et par le tandem franco-allemand ne mènent pas à la reprise.
Donc ça veut dire que si jamais il y avait une politique de gauche qui était tentée, avec les baïonnettes populaires dans les reins, ce gouvernement de gauche, il pourrait aller voir d'autres gouvernements en Europe en disant, ben voilà, essayons autre chose ensemble.
Il pourrait aller les voir en leur disant, de toute façon, la politique à laquelle Nicolas Sarkozy a consenti, nous n'y consentons plus.
François Hollande dit, notre adversaire, c'est la finance. Apparemment, la finance, là, elle n'a pas l'air de trop trembler. Là, Serge Halimi, vous rajoutez, notre adversaire, c'est aussi la Commission européenne, c'est aussi les masses médias, c'est aussi la Banque centrale européenne. Bon.
Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, ce sont les mêmes intérêts qu'ils défendent.
Eh bien, ça, c'est leur plan de bataille. Face à tous ces adversaires, quel est notre plan de bataille?
Eh bien, le plan de bataille, c'est de refuser les postulats qui ont été entérinés depuis une vingtaine d'années et de dire précisément devant l'évidence du désastre, vos politiques nous ont amenés dans la situation dans laquelle on se trouve. Nous ne faisons plus un pas en avant dans cette direction. Au contraire, on essaie de s'extraire des décombres en appliquant des politiques où on accepte une dépense publique plus importante pour relancer l'économie. Mais aussi, peut-être, qui sont des politiques d'emprunt forcé, où au lieu de s'adresser aux marchés financiers et de leur céder les taux d'intérêt extravagants qu'ils vont demander, on se dit qu'il y a une masse d'épargne considérable en France et que cette masse d'épargne considérable en France n'a pas de raison particulière de s'investir sur les marchés mondiaux à la recherche des meilleurs profits. Après tout, on a vécu pendant des décennies avec une épargne française ou allemande qui finançait des projets nationaux, voire des projets continentaux, plutôt que des bulles spéculatives à Hong Kong ou en Argentine. Donc on peut estimer que cette masse financière française, parce que les Français épargnent davantage qu'ils ne consomment, il y a donc des capitaux qui sont disponibles, mais malheureusement ces capitaux s'évaporent à l'échelle de la planète, ne sont pas investis dans la perspective de projets utiles. Donc on envisage les mesures qui permettront de défaire l'espèce de déréglementation financière qu'on a connue depuis 20 ans, et naturellement d'obtenir des ressources supplémentaires via la taxation des transactions financières. Donc toutes ces possibilités-là existent. Encore faut-il être prêt à les saisir. Et encore faut-il, du côté de la population, être prêt à les encourager et à exprimer sa volonté.
C'est rebeller quand le système te lacère, t'emprisonne, veut te mettre la muselière. Désobéir quand cela devient nécessaire, contestataire devant la cerbère sanguinaire. Rester visible comme le kéfé de Yasser, ostensible pour exprimer notre colère. Ouvrir nos gueules, mobiliser nos frères, va dire à nos censeurs qu'est impossible de nous faire taire.
Pas de paradin, on occupe le terrain, sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore, on résiste, avec les moyens du bord.
Pas de paradin, on occupe le terrain, sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore, on résiste, avec les moyens du bord.
Résister pendant qu'il est encore temps, refuser leurs menottes et leurs carcans, refuser leurs règles, leurs commandements. Libre de nos mouvements, on reste indépendant. Occuper l'espace, au moins ce qui nous reste. Mais bel et qui surveillent nos moindres faits et gestes. Ils essayent de contrôler le moindre bouillonnement, neutralisé, paralysé, le moindre dissident.
C'est ce qui nous attend, donc autant défier le destin. Tout est bon à prendre quand y'a plus un père pour guérir tes plaintes. Donc à prélever tes empreintes ou tes impôts. Les infos pour qu'un innocent tombe et qu'un flic sauve sa peau. Plus rien de fécond, à cette heure la France est en peine. Mais nos proches préfèrent adopter des projets de loi visant à prendre aux pauvres ce qu'on aura plus à payer d'ici quelques mois. Un loyer, deux repas par jour de moins.
On lâche rien, on reste fidèle au poste. Un stylo, un papier, mon texte, une riposte, une contre-attaque, une contre-offensive, un pavé de plus contre leur loi répressive. C'est sur le terrain qu'on bricole avec ce qu'on a, qu'on résiste comme on peut avec ce qu'on trouve ici-bas. Des nôtres, ils ont fait des parias, des scélérats. Mais crois-moi, un jour ou l'autre, ça se paiera.
Pas de paradin, on occupe le terrain, sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore, on résiste, avec les moyens du bord.
Pas de paradin, on occupe le terrain, sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore, on résiste, avec les moyens du bord.
Alors, Nicolas Doisy, vous êtes chef économiste chez Chevreux. Vous avez un encadré pour dire, en gros, le Royaume-Uni et l'Irlande ont flexibilisé leur marché du travail et ça a marché. En revanche, en Europe continentale et notamment en France, on a fait de la résistance et finalement, on obtient des moins bons résultats.
Oui, tout à fait. En fait, en Europe continentale, on a voulu s'épargner l'idée de faire un contrat de travail unique qui soit suffisamment flexible. Et tout est dans le suffisamment. C'est une question de bon dosage et de la flexibilité, mais l'important, c'est d'un contrat de travail unique. Donc, le CDI tel que nous l'avons connu, nous ne le connaîtrons plus normalement. Ça, c'est clair.
Alors, vous dites que ça ne s'est pas fait en Europe continentale, alors que ça s'est fait au Royaume-Uni et en Irlande. Donc, aujourd'hui, le moment est venu de flexibiliser le marché du travail en Europe continentale. Mmh. On le voit en Espagne, on le voit en Italie, on le voit en Grèce. La France ne peut pas être le seul îlot à maintenir une rigidité sur son marché du travail dans une Europe qui flexibilise.
C'est un peu ça. Alors, en Espagne, on est en train de créer un contrat de travail unique. En Italie, j'espère que c'est ce vers quoi on se dirige. Parce que, j'insiste, on sait que ce qui fonctionne, c'est une réforme du marché du travail où vous avez un contrat de travail unique, c'est-à-dire le même modèle de contrat de travail qui s'applique à tous. Sinon, vous vous retrouvez comme en Espagne, vous avez un quart de la population qui subit toute la flexibilité pour que les trois quarts des autres travailleurs puissent vivre dans un relatif confort. Je répète, d'un point de vue politique, ça ne me semble pas très juste.
Juste une question qui me vient comme ça. Vous, vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Boisy?
Je suis en CDI. Bien évidemment. Voilà.
Nicolas Doisy, en CDI, Chief Economist à la Corporate Investment Bank, et économiste et stratégiste, qui défend et qui présente très clairement, avec beaucoup de lucidité, comme le disait un des interlocuteurs, une bonne pointe de cynisme, le plan de bataille des financiers pour le lendemain de l'élection présidentielle qui nous passionne actuellement. Mais attention, ne pas sous-estimer la capacité de résistance populaire. On retrouve Jacques Sapir, auteur de « Faut-il sortir de l'euro face à ce qui vient d'être dit ?»
Jacques Sapir, vous êtes économiste ? On se trouve là dans votre bureau, à l'École des hautes études en sciences sociales. On est venu vous voir parce qu'on a rencontré le chief économiste de Chevreux. On a lu ce papier, je vous l'ai envoyé par Internet. C'est un papier que je trouvais finalement marqué d'une certaine radicalité, puisqu'il dit « il n'y a pas de compromis possible, soit François Hollande va déplaire aux électeurs, soit il va déplaire au marché ».
Je trouve que c'est un papier très honnête. Aujourd'hui, nous sommes face effectivement à cette réalité qui est que dans une monnaie unique, le droit du travail et le droit social ont tendance à s'aligner sur le moins-disant et le moins-coûtant. Admettons que François Hollande soit élu. Il sera confronté à une crise financière et donc économique extrêmement importante à partir de la fin de cet été. Tout le monde sait que les questions de la Grèce ne sont pas réglées. Tout le monde sait qu'il faudra un troisième plan de soutien à la Grèce entre le mois d'août et le mois de septembre. Tout le monde sait que la crise de l'euro, qui est pour l'instant assoupie, va se réveiller de manière très forte. La situation actuelle, je la compare à un feu de tourbe. Vous savez, dans un feu de tourbe, ça brûle sous la surface. Alors vous allez dire, bon, oui, ça va, on a éteint l'incendie. Et puis tout d'un coup, vous avez une résurgence extrêmement importante du feu. C'est très exactement ce que nous allons connaître à partir de cet été ou du début de cet automne. Et à ce moment-là, il sera confronté à la contradiction entre les espérances auxquelles son élection a donné lieu et le fait qu'il tranchera probablement dans un sens européen, et qu'il dira « il nous faut faire de nouveaux sacrifices pour pouvoir rester dans la zone euro ». Alors, il va probablement essayer de déguiser ces sacrifices en disant « bon, nous ne faisons pas un démantèlement de notre droit du travail, nous allons faire une réforme, mais vous allez voir, si certains perdront un petit peu, d'autres vont y gagner ». C'est des foutaises, pardonnez mon expression, mais tout ceci sont des foutaises. Et en fait, nous allons aboutir à un démontage extrêmement rapide et de notre droit social et de notre droit du travail. Qu'est-ce qui se passera? Il y aura, à l'évidence, des mouvements sociaux extrêmement importants. Et donc, je pense que M. François Hollande va se transformer en un Georges Papandréou français. Ça me semble absolument inévitable, sauf qu'on peut espérer que la situation politique de la France étant un petit peu différente de la situation politique de la Grèce, on aboutisse cette fois-ci à un front du refus par rapport à l'euro, disant bon, maintenant ça suffit, qui pourrait être majoritaire. Et à ce moment-là, on entre dans une crise politique. Je ne pense pas que dans ce contexte, François Hollande reste beaucoup plus que 2 ans ou 2 ans et demi au pouvoir.
C'est C'est quoi les slogans?
Ça, c'est encore le slogan peuple en avant, on ne baisse pas la tête. La seule réponse, c'est soulèvement encore et encore.
Les Italiens ont peur de l'avenir. Une crainte relayée ce mardi matin par les unes des grands journaux du pays.
Pour limiter le poids de sa dette, l'Espagne multiplie les coupes budgétaires. Et les suppressions d'emplois font partie du plan d'économie. Le pouvoir a l'intention d'en détruire 630 000 en 2012.
Comme ça, pas un pas en arrière, pour la réforme, grève générale.
Donc finalement, il se dessinerait dans cette campagne présidentielle la force politique de rechange pour quand le Parti socialiste aura capitulé devant les opérateurs de marché.
Si François Hollande capitule, il y a effectivement une chance en France, c'est que en France, il y a un seul parti important à la gauche du Parti socialiste, le Front de gauche, et que par ailleurs, il y a des courants à l'intérieur du Parti socialiste qui, s'ils sont amenés à rompre avec le Parti socialiste, trouveront assez naturellement leur place au sein du Front de gauche. Donc, on peut tout à fait imaginer, par exemple dans des sondages au début de l'année prochaine, un Front de gauche à 30 ou 35% et un Parti socialiste réduit à 10 ou 15%. Évidemment, se posera à ce moment-là le problème de la légitimité d'une Assemblée nationale qui ne représentera plus ces nouveaux équilibres. Et on voit bien que le basculement des forces politiques réelles par rapport à l'image légale des forces politiques telle qu'elle aura été enregistrée à la fin de ce printemps, ce décalage sera tel qu'il y aura un problème majeur de légitimité du pouvoir. Qui dit un problème majeur de légitimité, dit aussi un problème d'autorité. Il faut savoir que l'autorité découle de la légitimité. Quand les gens sentent que le pouvoir n'est plus légitime, ils ne lui obéissent plus. Et donc se posera la question de savoir, est-ce que le président prend acte de ce changement politique et dissout la Chambre ou pas? Et là, d'une certaine manière, je dirais que toutes les possibilités sont ouvertes, y compris celle d'une tentative de coup d'État militaire. Et Michel Rocard, bon, je sais, on ne tire pas sur une ambulance et sur un homme à l'hôpital, mais il faut quand même se rappeler, Michel Rocard avait dit « il faut un coup d'État militaire en Grèce pour que la politique de la Troïka soit appliquée ». C'est quand même assez étonnant. C'est un dirigeant du Parti socialiste qui aujourd'hui en appelle à la dictature militaire. Il faut voir à quelles extrémités en sont aujourd'hui les plus européistes de nos hommes politiques. Donc, aujourd'hui, nous avons une ligne d'évolution qui conduit à un pouvoir minoritaire se maintenant au pouvoir par la force et une ligne qui aboutit plutôt à un pouvoir qui serait majoritaire mais qui impliquerait une rupture massive avec le cadre européen et la zone euro.
Finalement, vous êtes d'accord avec le chiffre économique de Chevreux, mais sauf que vous en tirez une conclusion opposée en disant, du coup, gardons notre droit du travail et sortons de l'eurozone.
Oui, et si vous voulez, ce sera le choix d'un homme. Soit François Hollande fait le choix de l'Europe, mais à ce moment-là, il faut qu'il l'assume jusqu'au bout. Et il faut qu'il comprenne que ce choix de l'Europe est un choix de la dictature. Ou alors, comprenant qu'il devra sacrifier des choses auxquelles je pense qu'il est aujourd'hui très profondément attaché. Monsieur François Hollande n'a pas l'âme d'un dictateur. Comprenant quelle est la logique implacable à laquelle sa politique le conduit, change de politique et se décide de rompre avec la zone euro. Donc, si vous voulez, nous allons entrer dans des mois et des années de très grandes tensions sociale, économique et politique, et où je pense que chacun, que ce soit les citoyens ou les hommes politiques, chacun devra prendre ses responsabilités.
Vous êtes
Merci à toutes et à tous. C'était Les Financiers au coin du bois, un reportage de François Ruffin sur les conséquences financières d'une éventuelle victoire de François Hollande au présidentiel. Merci à tous, merci à Hervé Kempf. Vous pouvez retrouver sur le site www.reporter.net, une traduction de la note des économistes et de Chevreux que prévoit Monsieur Hollande. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org. Et puis on peut se retrouver sur la page Facebook de l'émission demain, deuxième partie de ce sujet, les financiers au coin du bois, la technique aujourd'hui de Farguéride et Jean-Philippe Jeanne. Bertrand Chometon et Franck Adhérin ont réalisé cette émission. Marina Touillez nous assiste et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.